Un 72e miracle à Lourdes a été reconnu. Comment se passe une telle reconnaissance, Isabelle Duché?
Le mercredi saint, 16 avril, l'évêque du diocèse de Tourcy-Lagonegro a reconnu officiellement la guérison miraculeuse d'Antonietta Racco, une Italienne de 67 ans, guérie d'une sclérose latérale primitive après un pèlerinage effectué à Lourdes en 2009. Pour bien comprendre ce processus de reconnaissance, nous sommes en ligne avec le docteur Alessandro De Francisis, médecin permanent au bureau des constatations médicales du sanctuaire de Lourdes. Bonjour docteur.
Bonjour à vous, madame.
Merci de nous accorder cette interview ce matin. En quoi la sclérose latérale primitive dont souffrait cette femme, Antonietta Racco, était-elle incurable et quels en étaient les symptômes?
Mais la sclérose latérale primitive fait partie du grand chapitre des maladies neurodégénératives. Il est très proche, c'est un cousin, si vous voulez, de la maladie qu'en France vous appelez de Charcot, la sclérose latérale amyotrophique, laquelle consiste, l'amyotrophique, dans l'intéressement des deux neurones moteurs, qu'on appelle motoneurones en médecine, et qui est connue par le public, largement public. Ça, par contre, c'est une maladie qui est le premier neurone moteur. Et c'est pour ça primitive au primaire, c'est-à-dire c'est un seul neurone moteur. Ça porte en tout cas plus doucement, plus lentement comparé à la maladie
de Charcot qui est galopante.
Elle est également très grave car il va toucher effectivement la marche. Cette dame arrive à Lourdes en pèlerinage en 2009 avec pratiquement l'impossibilité de marcher. Elle ne pouvait plus contrôler ses jambes.
Donc elle était en fauteuil roulant.
En fauteuil roulant. Elle avait des problèmes de son bras du côté gauche. Le côté gauche n'était plus intéressé que le côté droit. Elle avait problème à commencer à avaler, elle avait commencé à avoir des problèmes pour avaler et elle a commencé aussi à avoir une réduction de sa capacité respiratoire. Donc c'était un cadre plutôt grave, très bien étalé par l'université de Turin où elle était suivie. Femme du Sud, elle partait au Nord parce qu'elle était suivie dans ce centre neurologie très connu,
c'est plus spécialisé.
De renommée, parce qu'elle avait des céphalées très fortes, des migraines très fortes, elle avait des crises de migraines très fortes, qu'elle était bien traitée là-bas. Et là, c'est là où finalement les neurologues se rendent compte que quelque chose se passe. Le diagnostic a été posé en suspicion et après en certitude entre 2004 et 2005.
Ah oui, et donc, c'est seulement en 2019 que cette femme italienne a fait son pèlerinage
non.
à Lourdes.
Ah non, c'est non. 2009, non 19.
2009, pardon, 2009. 2009. Quels sont les rituels auxquels elle s'est prêtée?
Elle arrive donc avec une hospitalité italienne, une Italie à Lourdes. Elle est logée à l'accueil des malades. Elle est transportée par fauteuil roulant et donc elle fait tout ce que la semaine de pèlerinage a prévu. Donc elle participe aux messes, aux rites, etc. Et au passage aux piscines. Et c'est au passage aux piscines qu'elle raconte à moi, que j'ai pris sa déclaration de guérison supposée en 2010, elle raconte d'avoir vécu une sensation absolument inhabituelle de douceur, de comme une tiédeur, et là, elle est plutôt froide, l'eau du bain, et d'avoir entendu comme une voix qui lui disait sois tranquille, sois joyeuse, sois tranquille. Donc elle pense et sent même comme une main qui s'appuie sous son cou. Donc évidemment, je dis tout ça en guillemets parce que moi, en tant que médecin, je ne pourrais rien prouver de ce que je vous dis, mais c'est pour dire qu'elle a vécu sans doute un moment de très intense spiritualité. Et effectivement, lorsqu'elle sort du baignoire, elle sait qu'elle peut marcher. Elle le sait. Mais, ça c'est très intéressant, elle a presque honte de le dire aux autres. Elle a honte de le dire aux autres.
Donc elle le cache un peu.
Elle le cache. Ouais. Et c'est le dernier jour du pèlerinage qu'il a passé au bain, donc il passa à la grotte saluer la Vierge, et elle serait tentée de se mettre en genou, mais encore une fois, elle se sent qu'elle serait observée, qu'elle sera vue, repérée, et donc elle reste, si vous voulez, en guillemets handicapée jusqu'à l'arrivée du train dans la ville d'origine.
Ah oui, c'est
et
ça,
c'est
à
là
son
où
retour.
Elle est débarquée du train par les brancardiers, accompagnée à la maison, petit appartement, sont des gens très simples. Le mari cardiopathe était resté chez eux, à la maison, et lorsque sa femme entre, elle entend de nouveau la voix intérieure qui lui dit « montre-lui, montre-lui
».
Donc elle se lève du fauteuil roulant, elle commence à marcher dans la pièce, Et le mari commence à pleurer de joie, il ne croit pas à ses yeux, et finalement, il évanouit. Et donc, elle est aussi en souci qu'il puisse avoir une attaque cardiaque. Donc voilà, c'est une très belle histoire.
Ah oui,
elle appelle
magnifique.
Immédiatement le président de l'hospitalité, qui à son tour appelle immédiatement l'évêque, qui n'est pas celui de maintenant, c'est un autre évêque qui est évêque du diocèse, qui avait été président du pèlerinage. Il était rentré chez lui comme la dame depuis quelques minutes.
Et oui, c'est
minutes.
Ça, à l'issue du pèlerinage, oui.
Donc la nouvelle a été répandue immédiatement, aussi sous les médias, sous les choses. Mais après, on a demandé le silence absolu lorsqu'il est venu me voir en 2010. Et bon, j'ai pris tous les éléments. Et après, on a doucement bâti le dossier, dont le point délicat était deux. Les points délicats. Le premier, c'est effectivement d'être sûr et certaine que la dame était guérie et que cette guérison était stable et durable dans le temps.
Oui, parce qu'il y a des critères, en fait, hein, qu'il faut respecter.
Il y a l'un des sept critères que nous respectons de manière très rigoureuse. Et l'autre chose était d'être sûr et certain du diagnostic, parce que les diagnostics dans les maladies neurodégénératives sont plutôt délicates.
Et donc vous avez pris attache avec les médecins de cette femme et donc justement à l'hôpital de Turin dont vous nous parliez au début.
D'abord, on a reconstruit le dossier qui est plutôt. Et là, il faut dire que je remercie énormément la personne parce que et ça m'arrive plutôt souvent que des gens me déclarent une très belle histoire. Mais après, ils disparaissent. C'est donc une envie de parce que c'est un parcours compliqué pour les gens qui veulent collaborer.
Oui, parce qu'il y a beaucoup d'analyses et d'examens complémentaires.
Expertise supplémentaire, indépendant. Pensez-vous que j'ai envoyé cette femme à deux différentes psychiatres pour être sûr et certain qu'elle n'était pas qu'elle est sincère, si vous voulez. Mm-hmm. J'ai envoyé cette femme d'un autre neurologue. Et j'ai demandé au président de la Société française de neurologie, qui était alors le professeur Jean Pouget de Marseille, de me donner le nom de quelqu'un auquel faire confiance. Il m'a donné le nom du professeur Silani de Milan. Le professeur Silani Milan l'a expertisé en 2013 et depuis il a suivi dans le temps. Et lui d'ailleurs c'est l'un des experts au niveau mondial, mais je l'ignorais. Le professeur Pouget le savait, mais moi non plus. Mmh. Il était l'un des hommes de pointure en matière de maladies de neurodégénératives. Donc
il vous a confirmé la maladie qu'avait cette femme.
Il a confirmé la maladie et après on a attendu doucement le temps qu'il fallait pour être sûr et certain que la guérison était durable. Vous savez, en maladie neurologique, on a souvent des maladies qui ont des périodes de rémission des symptômes. Mmh.
Et donc là, il a fallu attendre combien de temps pour avoir ce caractère durable ?
Dans ce cas, elle a déclaré à moi son histoire à juillet 2010, mm-hmm. et le CMIL, Comité Médical International de Lourdes, à la suite du jugement du Bureau des Constatations Médicales, l'a reconnu guérison inexpliquée à l'état de nos connaissances, donc sclérose latérale primitive guérie à manière inexpliquée selon nos connaissances médicales en 2024.
Oui, c'est ça.
C'est à ce moment que Monseigneur l'évêque d'État, parce que l'expertise médicale qui avait duré presque 14 ans n'était bien terminée, c'est à ce moment que l'évêque de Tarbes et Lourdes, Monseigneur Mika, a écrit à son père, l'évêque de Tours-Lagonegro, en relatant les événements que Lourdes avait suivis pendant 14 ans, en laissant au diocèse d'appartenance de la personne de décider si aller ou non plus loin. Le mois de janvier, Monseigneur l'évêque de Tours-Lagonegro, non, le mois de décembre, le mois suivant, décembre 2024, l'évêque de Tours-Lagonegro a signé un amendement, un décret, comme quoi il a constitué la commission médico-théologique qui est prévue par le droit canon. La commission a travaillé 2-3 mois avec des médecins, des théologiens et tout ça, et après ils ont avisé, ils ont donné l'avis à leur évêque, qui dit oui, il semblait être opportun de le proclamer miracle.
Qu'est-ce qu'elle vérifie précisément cette commission théologico-médicale, puisque on imagine que vous aviez fait tout le travail au bureau médical de Lourdes, et quels sont les éléments théologiques qui sont ajoutés?
Là, il faut le demander à l'évêque qui connaît un miracle, c'est-à-dire sont deux plans complètement différents, même si en communication, c'est la beauté en Église catholique de ce dialogue entre science et foi. Nous sommes le côté, si vous voulez, scientifique, la médecine, et on arrive à dire, écoutez, pour ce que nous savons aujourd'hui, dans la littérature scientifique, l'expérience, il n'y a pas de cas de ce type de maladie qui sont guéris à manière inexpliquée. Mm. On fait, autrement dit, ce que dans la littérature médicale, on appelle, on décrit comme des rémissions spontanée de maladies graves, même gravissimes. Ça existe, ce phénomène.
D'accord.
Où est la force de Lourdes, je trouve, franchement? Et je l'ai dit maintenant, au début de ma 17e saison au service du sanctuaire. La force de ce métaux de Lourdes qui est né au 19e, c'est que on arrive à dire, ça c'est une guérison inexpliquée à l'état de nos connaissances. Mm-hmm. Donc c'est quelque chose qui peut arriver aussi dans un hôpital universitaire, dans le monde, n'importe où. D'accord. Donc, je peux donc avoir respect pour l'opinion de mon père, un docteur, un professeur d'université, de n'importe où dans le monde, qui dira, oui d'accord, on est d'accord, mais un jour, je suis sûr, il sera explicable. D'accord, on est bien d'accord.
Ah, oui.
Êtes-vous d'accord avec moi qu'en ce moment, il n'y a pas d'explication?
Oui.
C'est vrai, ça reste inexpliqué.
Eh bien, l'instant T.
Alors, je vous demande d'avoir du respect aussi pour l'opinion du pasteur, du culte de cette personne. C'est-à-dire, si l'évêque de la personne guérie reconnaît par contre, il imagine par contre qu'il y a là l'action du droit de Dieu.
Mm-hmm.
Pourquoi pas?
Oui. Alors, et ça, c'est le rôle de
cette
commission.
Non, mais Dieu n'existe pas. Et monsieur, il faudra que vous me le montriez scientifiquement que Dieu n'existe pas. Et moi, je l'affirme, on ne pourra jamais montrer scientifiquement la non-existence de Dieu. Donc, je pense que ce que la... Je pensais, je n'ai jamais fait partie d'une telle commission, mais les médecins... Et moi, j'ai dû envoyer copie du dossier de Mme Racco au médecin qui m'a été indiqué par la commission canonique du diocèse de Tourcy-Lagonegro. Il a dû évidemment expliquer, ou si vous voulez, rendre compréhensible à ces théologiennes, à ces prêtres, de quoi s'agit-il. Et après, tout reste sur le plan pastoral, c'est l'interprétation de l'évêque. Et pourquoi un évêque reconnaît un guéri signe et l'autre non, j'en sais rien. Mais Lourdes est née comme ça. Hein.
Oui.
À l'époque, à la fin des apparitions, en 1858, l'évêque du diocèse, Monseigneur Laurence, a voulu instituer une commission et attendait, dernière apparition le 16 juillet, ce décret est signé, cette ordonnance est signée le 28 juillet 1858. Il fait une ordonnance en quoi il demande justement de vérifier si ces apparitions sont vraies ou fausses.
Mm-hmm.
Et l'évêque pose à sa commission, qui est composée par les chanoines de la cathédrale de Tarbes et par des professeurs du petit séminaire de Saint-Pé de Bigorre, il demande quatre seules choses, dont la première, c'était les guérisons.
Ah oui, c'est
si
ça.
Si des guérisons sont vraiment arrivées. Et il n'a pas demandé à un médecin expert ami à lui. Il se tourne vers le médecin qui faisait autorité dans le département en matière de guérison et de santé et eau.
Oui.
Il s'appelait inspecteur des eaux. C'est une charge publique. Et c'était, à l'époque, l'ancien professeur de la faculté de Montpellier, le docteur Vergès de Barèze.
Oui, ça donnait une neutralité, en fait. Oui.
Et le docteur Vergès consigne à Monseigneur Laurence son rapport, son expertise sur les guérisons. La première est arrivée à la grotte, vous le savez sans doute, trois jours après la découverte de la source d'eau.
Mm-hmm.
C'est Catherine Latapie de Loubajac. Et à suivre, à la fin des apparitions, on compte déjà une vingtaine, et à la fin de l'année 1858, on compte déjà une centaine. Le professeur Vergès consigne son expertise à l'évêque, et l'expertise parle de neuf guérisons absolument inexplicables.
Oui.
Monseigneur Laurence, lorsqu'il a reconnu les apparitions le 18 janvier 1862, il a reconnu 7 guérisons être
miraculeuses. Ah oui, donc c'est pas le même chiffre.
C'est déjà au début de l'histoire de Lourdes qu'il y a une très claire différence entre l'expertise médicale et l'interprétation pastorale que l'évêque donnera, parce qu'il s'agit de donner à quelqu'un ou à quelqu'une, les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans l'histoire des miracles de Lourdes, à donner à quelqu'une la charge de représenter un signe vivant de la toute-puissance de Dieu, par l'intercession de Notre-Dame. Donc c'est une opération qui est plutôt théologique et pastorale. Et
oui, c'est ça, théologique et pastorale. Et puis, on mesure bien la prudence aussi de l'Église dans cette reconnaissance des guérisons à Lourdes. Merci beaucoup, docteur Alessandro De Francisis. Je rappelle que vous êtes médecin et président du bureau des constatations médicales du sanctuaire de Lourdes. Vous interveniez ce matin à propos de la reconnaissance du 72e miracle attribué à la Vierge Marie. Grand merci à vous.
Merci à vous, madame, et à tous nos auditeurs.